Thierry Salentin, ethnologue, a vécu de 1986 à 2000 parmi les peuples autochtones de la Guyane française. Depuis, il mène une campagne d'information contre la création d'un parc naturel en forêt équatoriale qui menace la survie de ces peuples en permettant au tourisme de s'implanter dans leur région d'habitation. Dans cette seconde partie, il nous parle de ces atteintes faites aux Amérindiens que sont le tourisme et l'orpaillage. La loi de 1970 donnait un espace à ces populations autochtones et au final est remis en question tout dernièrement. Là.
Actuellement, on a un créole cayennais qui est au pouvoir au gouvernement. Le gouvernement Raffarin a nommé Léon Bertrand, natif de Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane. Il était député-maire de Saint-Laurent-du-Maroni et maintenant il est secrétaire d'État au tourisme. Alors il profite de son rôle au gouvernement pour jouer un sale tour à ses ennemis toujours, les Amérindiens. Et si maintenant que je suis au gouvernement, ben je vais supprimer ce règlement qui protège les Amérindiens depuis 1970. Et on a fait une campagne de lettres fin 2002. Et plein de gens ont écrit pour protester, pour exprimer leurs soucis si jamais cet arrêté préfectoral de 1970 était supprimé. Et à notre grande stupéfaction, au lieu de s'excuser ou de dire qu'il allait créer une commission, comme ils font tous, pour réfléchir davantage, il a dit « Non, je confirme, effectivement, je veux abroger l'arrêté préfectoral de 1970 au nom de la libre circulation des biens et des personnes. » Il précise aussi « et des accords de Schengen ». Là, je crois qu'il se trompe parce que les accords de Schengen ne concernent pas les départements d'outre-mer. Et il dit aussi que c'est au nom de la République une et indivisible. Enfin, il cite le préambule de la Constitution. Et pour lui, c'est un argument pour qu'on supprime un règlement qui protège les Amérindiens. Enfin, je trouve ça très hypocrite, en tout cas très dangereux pour les trois ethnies amérindiennes qui peuplent actuellement le sud forestier de la Guyane, à savoir les Teco, qu'on appelait autrefois les Émerillons, qui sont à peu près 300 à 400 personnes, les Wayampi, qui sont, eux, partagés par les frontières coloniales, c'est-à-dire il y a des Wayampi également au Brésil. Il y a quatre petits villages encore très traditionnels, hein, où les gens vivent uniquement de chasse, de pêche, de cueillette et de jardinage itinérant. Il existe même encore dans la forêt des groupes Wayampi dits non contactés, que personne n'a jamais vu et qui échappent à toute pression coloniale. Peut-être même qu'ils ont encore des haches de pierre. Et puis de l'autre côté, côté de la frontière avec le Suriname, en rive française, il y a les Wayana. Alors les Wayana, eux, sont divisés par les frontières coloniales en trois morceaux, quoi. Il y a les Wayana en Guyane française, les Wayana au Suriname et les Wayana au Brésil. Mais au Brésil, ça se passe quand même beaucoup mieux, enfin au moins dans cette zone-là, parce que le gouvernement brésilien a reconnu plus de 50 000 km² de terre pour différents groupes amérindiens juste à côté de la Guyane. Et il n'y a pas longtemps, le gouvernement brésilien, c'était le 22 août 2002, a annoncé, c'était à Johannesburg, ils ont annoncé qu'ils venaient de créer un immense parc national tout le long des frontières de la Guyane. C'est un parc national de 38 000 km². Et ce qui est très bien dans la façon de faire des Brésiliens, c'est qu'ils ne mélangent pas les torchons et les serviettes. C'est-à-dire qu'ils ne mélangent pas les zones de protection de la nature et les zones territoires amérindiens. Parce que si on mélange, en général, c'est toujours catastrophique pour les populations autochtones. Et la France est en train de s'orienter vers un projet détestable. La France veut mélanger, justement, dans un même endroit, un parc national et un territoire amérindien.
Ce qui amènerait en fait du tourisme.
Ça amènerait les touristes au prétexte de visiter la nature. En fait, les touristes, ils restreincent l'œil dans les villages amérindiens pour aller mater les seins nus des Amérindiennes. Et ça fait partie de la marchandisation généralisée, la tendance actuelle OMC, AGCS. Et il peut y avoir des dérives si le pays indien, c'est-à-dire les 30 000 km², le tiers sud de la Guyane, est ouvert au tourisme. Thank you.
Thierry Salantin.
Il y a eu une première ruée vers l'or, donc fin du 19e, où on travaillait qu'à la pelle et à la pioche. Cette ruée s'est terminée dans les années 1950. Pendant 10-20 ans, il n'y avait plus rien. Et puis tout d'un coup, avec une nouvelle méthode brésilienne qui consiste à mettre des gros moteurs dans la forêt qui font de la pression, on pompe de l'eau et on décape la surface du sol avec des lances type lance à incendie. Avec cette nouvelle méthode, maintenant, il y a une ruée vers l'or et on repasse dans tous les endroits où les chercheurs d'or étaient déjà passés au 19e siècle. Et cette ruée vers l'or crée de gros dégâts. Déjà parce que tous ces gens-là travaillent avec du mercure. Le mercure a comme propriété de s'amalgamer à l'or. Ça sert un peu d'aimant. Et une fois qu'on a obtenu l'amalgame or-mercure, et il faut savoir qu'on utilise 1,3 kg de mercure pour 1 kg d'or extrait, donc énormément de mercure. Bon, une fois qu'on a l'amalgame, il suffit de chauffer par en dessous et le métal mercure s'évapore. Alors ce que savent pas les chercheurs d'or, c'est que le mercure évaporé, il va se condenser, il va se refroidir et il va retomber dans la nature. Et là, le mercure métal se transforme en mercure organique. On appelle ça du méthylmercure. Et le procédé de passage de méthylmercure à de mercure métal à mercure organique, ça s'appelle la méthylation. Alors, le mercure méthylé, le méthylmercure, est très toxique parce qu'il intègre la chaîne alimentaire, il se concentre le long de la chaîne alimentaire, et comme nous, les êtres humains, on mange bien sûr les plus gros poissons, mais on mange les poissons les plus contaminés. Et les Amérindiens, actuellement, avec seulement 4 espèces de poissons carnivores, ces 4 espèces sont à l'origine de 75% du mercure qu'ils ont dans le corps. Et d'après les dernières analyses, 79% des enfants amérindiens et 65% des adultes ont dans le corps une dose de mercure qui dépasse les normes préconisées par l'OMS. Donc c'est une contamination extrêmement grave. Et le mercure a comme propriété de traverser la paroi dans le ventre de la mère. Donc ça contamine le fœtus. Et les bébés naissent, quand ils naissent, parce qu'il y a beaucoup de fausses couches, ils naissent soit mort-nés, soit lourdement handicapés, parce que le mercure, ça détruit le cerveau, enfin les cellules nerveuses. C'est un neurotoxique. Et alors, on le sait parce que il y avait eu une catastrophe au Japon, dans le sud du Japon, dans la baie de Minamata, où il y avait 7 ou 8 villages de pêcheurs traditionnels. C'est une usine qui s'appelle Shiso, qui était le plus gros employeur de la région, qui déversait du mercure directement dans l'eau de mer. Et ça a commencé en 1932. On a commencé à s'apercevoir des dégâts, des maladies à partir de 1955. Ça veut dire qu'il y a un effet retard entre le moment du début du déversement du mercure et le moment où il y a les maladies. Au début, les médecins étaient perplexes. Et puis, c'est par l'intermédiaire de l'observation des chats, qui se nourrissaient que de poissons, ils voyaient les chats de tituber ou les petits chatons naître infirmes. Et c'est là où ils ont découvert que l'origine de l'intoxication, c'est le mercure. Et c'est devenu très grave dans les années 70. Et en 72, il y a eu un scoop mondial. Là, c'est la revue Life qui a publié les photos d'un célèbre photographe des États-Unis qui s'appelle Eugene Smith. Il a publié ensuite un livre sur Minamata avec 151 photos atroces, des photos d'enfants handicapés, de mères baignant leurs enfants qui sont tordus, qui ont un visage vraiment hideux, déformé par la douleur. Il y a eu des milliers de morts. Il y a eu, je crois, 2000 morts et 20 000 handicapés. Et j'ai vu il n'y a pas longtemps un film sur Minamata. Et la leçon que j'en retiens, c'est que les pêcheurs disent: malgré tout ce qui nous est arrivé, on n'a jamais changé nos habitudes alimentaires. Ça veut dire que dans n'importe quel peuple, c'est l'alimentation qui est la base de la vie culturelle. Et l'alimentation, ça ne change pas comme ça. Or, actuellement, le gouvernement français a pris une seule décision depuis le début de l'apparition du problème du mercure chez les Indiens. La seule décision prise, c'est: au lieu de s'attaquer aux chercheurs d'or, on va s'attaquer aux Indiens parce que c'est eux qui ont tort. Et on va exiger que les Indiens changent leurs habitudes alimentaires. Ça, c'est la seule attitude jusqu'à aujourd'hui du gouvernement français depuis la crise qui a éclaté en février 2000. Février 2000, c'est le moment où les chercheurs d'or ont quitté la zone de Dorlin dans le centre de la Guyane pour envahir le pays indien qui est en principe protégé depuis 1970. Ils ont envahi la rivière Waki et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu aucune opération de répression contre les entrepreneurs de la rivière Waki, notamment Jean Bénat, qui est là. Et donc le gouvernement français ne fit rien. Tout l'intérieur forestier, là où il y a de l'or, c'est devenu zone de non-droit avec banditisme, avec attaque des chantiers, les gens s'attaquent les uns les autres, avec prostitution, avec sida, avec crack, avec cocaïne. Enfin, ça devient socialement explosif, parce que Jean Bénat sévit toujours. Le 14 mai 2003, ça s'est marqué dans le communiqué de presse de Reporters sans frontières du 15 mai. Il y a aussi l'article du Monde du 17 mai qui raconte que Jean Bénat devait aller en cour d'assises à Cayenne pour assassinat d'une Amérindienne. Il s'agissait de l'assassinat à Marie Passoula de Joséphine Maturine, la dernière Amérindienne très âgée de l'ethnie Teco qui connaissait toute la culture orale. Donc elle est morte, c'est comme si une bibliothèque avait brûlé, quoi. Alors Jean Bénat non seulement s'est permis de ne pas se présenter devant le juge, il est resté sur les marches devant le palais de justice pour défier tous les témoins. Et à un moment, il a vu passer le journaliste Frédéric Farine et il lui a tout simplement cassé la figure devant deux policiers en uniforme qui n'ont pas bronché. Et à la fin, il y a des policiers en civil qui se sont approchés, qui ont tutoyé Jean Bénat. Ils lui ont dit « Allez, arrête, tu vois, tu l'as assez esquinté comme ça, maintenant ça suffit, calme-toi ». Mais il y avait de multiples raisons pour lui mettre les menottes pour le présenter devant le juge. Mais personne n'intervient. On a l'impression que Jean Bénat, il est protégé. Et il est protégé depuis la complicité d'un préfet qui s'appelle Dominique Vian, qui était en poste il n'y a pas très longtemps en Ardèche. Dominique Vian, ça lui est arrivé plusieurs fois de dîner avec Jean Bénat. Donc il y a une complicité étrange entre l'État français, la préfecture, et les chefs bandits chercheurs d'or, les chefs de milices privées armées. Et le préfet actuellement coupable, c'est pas rien, c'est pas n'importe quel préfet. C'est M. Ange Mancini, qui est le créateur du RAID, le RAID qui vient d'arrêter Colonna. Donc Sarkozy a nommé en Guyane un préfet, paraît-il, à poigne, Ange Mancini. Mais Ange Mancini, jusqu'à aujourd'hui, il fait comme les deux préfets précédents, Dominique Vian et Henri Mas. Il s'aplatit devant Jean Bénat. Jean Bénat est devenu le maître de la Guyane. Il fait sa loi, et il fait sa loi avec des milices privées.
Il a de gros moyens financiers, ce Jean Bénat, là ?
Mais il doit avoir des gros moyens financiers parce que, comme Dominique Vian lui avait donné le feu vert pour être une espèce de barbouze qui fait régner l'ordre dans la forêt, lui, il a profité de cette espèce de feu vert du gouvernement pour éliminer ses concurrents, pour avoir le monopole de la plupart des chantiers. On ne sait pas si on extrait chaque année de Guyane 3 tonnes ou 40 tonnes d'or. Et à 80 francs le gramme, ça fait pas mal. Et si Jean Bénat a la haute main sur une grande partie de cet or, ça veut dire qu'il est immensément riche et qu'il s'est créé une clientèle partout. Il dit, c'est simple, pour exploiter de l'or en Guyane, on donne un dessous de table à la préfecture, à l'ADRIR, c'est-à-dire le ministère de l'Industrie, à l'ONF, et puis certainement à des élus locaux. Donc c'est une situation assez glauque et étrange dans, soi-disant, la patrie des droits de l'homme, quoi.
Il y a également des gros lobbies industriels qui essayent d'exploiter l'or là-bas.
Alors, c'est des multinationales essentiellement du Canada et des États-Unis. Alors, c'est par exemple Golden Star qui se fait appeler Guyanor. C'est Hope Bay qui se fait appeler Ariane Gold. C'est Rio Tinto. Rio Tinto est basé à Londres. Il faut savoir que Rio Tinto, ils sont associés avec une grosse compagnie états-unienne qui s'appelle Freeport McMoRan. Et Rio Tinto, avec Freeport McMoRan, ils ont à Grasberg, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, la plus grosse mine d'or du monde. Et là-bas, ils ont une armée privée qui tue les Papous tout autour. C'est officiellement dans la partie dite indonésienne ou Irian Jaya. Donc si Rio Tinto vraiment s'installe en Guyane, ça sera très grave pour les populations. Et nous, ce qu'on a peur, c'est que ces grosses multinationales, avec les énormes moyens financiers qu'ils ont, se mettent à zébrer tout l'intérieur forestier de route au prétexte d'aller désenclaver des sites miniers. Et s'il y a des routes qui commencent à zébrer l'intérieur forestier, ça sera la fin à la fois de la forêt amazonienne et des populations autant noir-marron que amérindiennes qui vivent traditionnellement dans la forêt. Parce que quand une route pénètre dans la forêt, ensuite c'est la destruction, c'est le braconnage, c'est les grumiers, c'est-à-dire les exploitants forestiers qui vont sortir du bois en profitant d'une route pour évacuer les troncs d'arbres. Tout arrive avec les routes. Pour le moment, heureusement, il n'y en a qu'une seule qui longe la côte, mais ça serait horrible s'il y avait des routes qui pénétraient vers l'intérieur. Or, c'est curieusement une exigence des politiciens créoles cayennais. Eux voudraient qu'il y ait des routes partout, parce que dans leur rêve mimétique de faire comme en France, ils voudraient que la Guyane soit comme la France, avec une capitale en plein milieu, style Brasilia. Alors, quelquefois, le hameau de Sahul, où il y a 25 habitants, ils rêvent que ce soit le Brasilia de la Guyane. Et à partir de là, plein de routes qui partent en étoile. Ah là là, comme ça, on serait moderne. Thank you.